VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 26 décembre 2017. En direct de Washington, Edressa Seguglia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
Second tour de l'élection présidentielle, aujourd'hui au Liberia.
6 militaires arrêtés en Guinée-Bissau pour complot.
Mise en garde du Front Polisario contre un éventuel statut de réfugié éternel pour le peuple sahraoui.
Les enfants du Moyen-Orient, au cœur du message de Noël du pape François.
En Russie, l'opposant Alexei Navalny appelle au boycott de la présidentielle du 18 mars après le rejet de sa candidature.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Second tour aujourd'hui de la présidentielle au Liberia, les électeurs retournent aux urnes ce mardi pour choisir entre l'ex-star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Eric Manirakiza fait le point en commençant par les colistiers des deux candidats.
George Weah est inscrit avec l'ex-première dame du Liberia, Jewel Howard Taylor. Elle est économiste de formation et a occupé des fonctions officielles pendant le règne de son mari, Charles Taylor. Au premier tour, ils sont arrivés en tête avec plus de 38% des voix et sont crédités favoris. Le vice-président sortant, Joseph Boakai, est associé au président du Parlement, Emmanuel Nukwai. Ils ont été devancés d'une dizaine de points. Ces dernières années, Jewel Howard Taylor a pris ses distances avec son ex-mari Charles Taylor. Son passé est apparu être un atout dans le comté de Bang, où elle a été élue sénatrice à deux reprises. Dans cet ancien fief de Charles Taylor, le score de Weah a triplé et bondi à plus de 40% le 10 octobre dernier. Ce scrutin se tient avec cette semaine de retard. Joseph Boakai a contesté pendant des semaines les résultats du premier tour devant la Commission électorale nationale et la Cour suprême pour fraude et irrégularité, mais sans rien de cause.
L'ancien président Amadou Toumani Touré, l'ancien président malien, qui est rentré dimanche à Bamako de son exil au Sénégal, s'est rendu hier matin à Mopti, à bord d'un avion militaire. Il a été accueilli par le maire de la commune urbaine de Mopti, des notables de la ville et une foule nombreuse. Au micro de Mamoudou Bokoum, notre correspondant sur place, l'ancien président malien a parlé de la signification de son retour au pays.
Après 5 ans et 8 mois d'absence, hier, je foulais le sol de notre pays, à Bamako, où vraiment les populations, le président de la République lui-même et l'ensemble des autorités, Premier ministre, gouvernement compris, des parlementaires et tous, et surtout la population de Bamako, m'ont réservé vraiment un accueil qui m'a fait tout oublier. Mais au-delà de ça, il faut également, après Bamako, que je vienne à Mopti du Sourou Papa, aller visiter le tombe de mes parents, ma maman, décédée après moi. Saluer les grandes familles et ensuite les faire savoir que je suis rentré. J'ai déjà mon champ ici que je cultive. Je ne peux pas faire autrement. Je suis parti là-bas pour mes services. Les services sont terminés, je suis à la retraite. Je rentre chez moi. Je le souhaite pour notre pays. Nous n'avons pas le choix et c'est une obligation morale, sociale et politique. Et je souhaite de tout mon cœur que notre pays se retrouve.
Quelle est l'alternative pour la paix selon vous?
Que les cœurs s'ouvrent et que chacun joue franc jeu. Ça, c'est l'essence pour la paix.
Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali.
En Côte d'Ivoire, des affrontements entre habitants de quartiers rivaux pour la construction d'un collège ont fait 4 morts à Kanakono, une sous-préfecture du Nord. 2 quartiers veulent accueillir ce collège. Des rumeurs de démarrage des travaux dans le quartier de Falikogo ont conduit les habitants de celui de Karga à se rendre sur le site présumé pour protester. Et la situation a ensuite dégénéré, ont raconté 2 témoins à l'AFP.
En Guinée-Bissau, 6 militaires ont été arrêtés pour complot. Ils sont accusés d'avoir voulu assassiner le chef d'état-major de l'armée, Abdourahmane Dia.
Ces arrestations, survenues mi-décembre, ont été confirmées hier par le président de la Ligue des droits de l'homme, Augusto Mario da Silva, qui affirme leur avoir rendu visite durant le week-end. Ces militaires ont été incarcérés dans une prison de la base aérienne. Selon le général Daba Nawalna, président de la haute cour militaire, ils ont déjà été entendus et leur dossier remis au tribunal militaire. La crise politique que traverse actuellement la Guinée-Bissau a aussi des répercussions dans les casernes. Le pays est entré dans une nouvelle zone de turbulence politique depuis la destitution en août 2015 du premier ministre Domingos Simões Pereira, leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert au pouvoir. En 2004, le chef d'état-major d'alors, le général Verissimo Correa Sebra, avait été assassiné par des soldats. La Guinée-Bissau a connu plusieurs coups d'État et autres assassinats politiques depuis son indépendance en 1974.
Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a lancé hier soir une attaque contre Maïdougouri, capitale de l'État du Borno dans le nord-est, mais cette attaque a été repoussée après d'intenses échanges de tirs avec l'armée. Il n'était pas possible dans l'immédiat d'établir un bilan des victimes. Selon l'AFP, la sécurité avait été renforcée à Maïdougouri pour le week-end de Noël et la population avertie de possibles attaques de Boko Haram.
Le Front Polisario avertit que l'armée sahraoui, je cite, est prête à faire face à tout imprévu et à toute éventualité pour arracher le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination. C'est ce qu'a dit, selon l'agence de presse algérienne APS, son ministre de la Défense. Pour Abdoulaye Lebib, le peuple du Sahara occidental ne peut être confiné éternellement dans un statut de réfugié. Le Maroc, qui contrôle une grande partie de l'ex-colonie espagnole, propose aujourd'hui aux Sahraouis une autonomie sous sa souveraineté que le Polisario rejette en bloc.
Visite aujourd'hui à Addis Abeba du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. À l'ordre du jour, l'épineux dossier du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil Bleu, que son président Abdel Fattah al-Sissi a qualifié de question de vie ou de mort et qui concerne aussi le Soudan. L'Égypte craint que la construction de ce gigantesque barrage par l'Éthiopie n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Pour le président al-Sissi, je cite, « Personne ne peut toucher à l'eau de l'Égypte ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François a plaidé hier, au cœur de son message de Noël, les enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde. Et il a appelé à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Devant 50 000 personnes venues place Saint-Pierre, écouter son message et recevoir la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape argentin a espéré qu'une reprise du dialogue l'emporte pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États.
Au Pérou, plus de 5000 personnes ont manifesté hier soir à Lima, malgré les fêtes de Noël, afin de dénoncer la grâce accordée pour raison de santé à l'ex-président Alberto Fujimori. Elles ont aussi exigé la démission de l'actuel président, qu'elles accusent d'avoir négocié politiquement cette mesure.
L'opposant russe Alexei Navalny a appelé hier au boycott de la présidentielle du 18 mars après le rejet de sa candidature par la Commission centrale des élections pour se donc porter candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. La Commission l'a jugé inéligible en raison de sa condamnation dans le passé à une peine de prison avec sursis. Précision de Jean-Roger Bion.
Oui, adversaire déclaré de Vladimir Poutine, l'opposant qui est âgé de 41 ans, a obtenu le ralliement de 742 personnes, un nombre au-dessus du seuil des 500 nécessaires pour pouvoir se présenter. Alexei Navalny accuse le Kremlin de torpiller sa candidature. La Commission centrale des élections l'avait déjà déclaré l'été dernier inéligible pour la même raison que celle invoquée lundi. Il a été interpellé et détenu à 3 reprises cette année pour avoir organisé des rassemblements politiques non autorisés. Se disant victime d'un harcèlement judiciaire, il a fait condamner la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme. Vladimir Poutine au pouvoir depuis 17 ans à la présidence ou au poste de premier ministre, 1999-2000 puis 2008-2012, a confirmé au début du mois qu'il briguerait un 4e mandat présidentiel lors du scrutin fixé au 18 mars.
En Turquie, un tribunal d'Istanbul a ordonné hier le maintien en détention de 4 collaborateurs du quotidien d'opposition Cumhuriyet à l'issue d'une audience tendue. Au total, 17 dirigeants, journalistes et autres employés actuels ou passés de Cumhuriyet, un quotidien critique du président Recep Tayyip Erdogan, sont jugés pour activité terroriste. Cette affaire cristallise les inquiétudes liées, dit-on, à l'érosion de la liberté de la presse en Turquie. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho Eric Manirakiza.
Au Mali, l'or représente 70% des exportations et apporte environ 950 milliards de francs CFA. La Banque mondiale indique que le Mali est le troisième producteur d'or d'Afrique, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud. Chaque année, ce métal précieux apporte au gouvernement 200 à 250 milliards de francs CFA, soit 25% des recettes fiscales. L'or soutient l'économie malienne depuis la crise de 2012. L'Éthiopie met 4 milliards de dollars dans la construction de deux centrales géothermiques et seront dotées d'une capacité cumulée de 1000 MW dans la vallée du Rift. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme énergétique éthiopien pour développer 17 346 MW dans les 10 prochaines années. Actuellement, la capacité maximale se limite à 4300 MW. L'Égypte veut devenir autosuffisant en gaz naturel liquéfié d'ici la fin 2018 et se positionner comme un fournisseur majeur du combustible fossile dans la région dès 2019. Le Caire a entamé ses activités de production se servant du périmètre gazier offshore Zohr, le plus grand de la Méditerranée. Il a une taille d'environ 906 milliards de mètres cubes de gaz. Cette activité ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir énergétique de l'Égypte.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
José Mourinho se plaint de la différence de calendrier lors du Boxing Day qui débute aujourd'hui.
Tout à fait. Idrissa, l'entraîneur de Manchester United, a critiqué le calendrier de la 20e journée de Premier League. Ce calendrier laisse, d'après lui, un jour de repos de plus au leader Manchester City. Une différence qui veut beaucoup dire, selon Mourinho. Les Red Devils qui reçoivent Burnley aujourd'hui sont deuxième du championnat à 13 points du leader City qui se déplacera mercredi le mal classé Newcastle.
Et justement, en cas de victoire, Manchester City s'approchera d'un record européen.
Effectivement, avec une série en cours de 17 victoires de rang en Premier League, les hommes de Joseph Guardiola sont proches de marquer davantage les esprits. En ligne de mire, le record de succès consécutif dans l'un des 5 grands championnats européens détenu par le Bayern Munich, 19 victoires Idrissa, est réalisé sous les ordres du même Pep Guardiola.
Mbappé, Asensio, Semedo dans le 11 des révélations UEFA de l'année 2017.
Une équipe surprenante avec un seul milieu de terrain, Harry Wicks de Tottenham. Il est entouré d'une armada offensive avec, entre autres, Marco Asensio du Real Madrid, Talisca du Besiktas, Timo Werner de Leipzig, Oberlin de Bâle et l'inévitable Kylian Mbappé, passé de Monaco au PSG.
Galatasaray tend la main à Eboué. Ruiné et poursuivi par les huissiers.
Et oui, Idrissa, dans une interview accordée au Daily Mirror, l'ex-international ivoirien a raconté sa descente aux enfers, un litige avec un agent et un divorce qui lui ont fait perdre toute sa fortune, accumulée en 15 ans de carrière. D'après Football Arena, un média turc, Fatih Terim, coach de Galatasaray, ancien club d'Eboué, lui aurait proposé de devenir l'entraîneur adjoint des moins de 14 ans du club Stambouliot.
NBA. Et pour terminer, Philadelphie a retrouvé la victoire en allant battre New York 105 à 98 hier en ouverture du Christmas Day, traditionnelle journée NBA de Noël. La performance du pivot turc Enes Kanter, 31 points et 22 rebonds, n'a pas suffi aux Knicks, qui n'ont pas pu empêcher les partenaires de Joel Embiid, 25 points, 16 rebonds, de l'emporter, eux qui restaient sur 5 défaites consécutives. Autre résultat, Golden State a battu Cleveland 99 à 92. Washington a eu raison de Boston 111 à 103. Et Oklahoma City a battu Houston 112 à 107.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour ce matin sur le récent grand remaniement du gouvernement au Tchad, où le président Idriss Déby Itno a réduit le nombre de ses ministres de 37 à 24 pour des raisons d'austérité, selon le gouvernement. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à N'Djamena Évariste Ngarlem-Holdé, politologue et enseignant à l'université de N'Djamena.
Mais est-ce qu'au fond, la réduction du nombre de ministres va apporter une solution au problème du pays? Là, je ne le pense pas. Puis, le changement ou la réduction des ministres n'est pas vraiment la solution. On peut trouver que c'est quand même ainsi encourageant,
mais aussi il y a le départ de certains qu'on pourrait considérer des poids lourds, notamment le ministre Bachir de la Sécurité, aussi le ministre des Affaires étrangères.
Il faut dire que dans ce pays-là, il ne faut pas trop s'agiter. Et ils n'ont fait que payer le prix de leur impopularité. Mais les Tchadiens attendaient mieux que cela.
Et pourquoi ça? Et pourquoi les Tchadiens attendent plus?
Non, le problème du Tchad, c'est un problème d'alternance. Il ne suffit pas de faire partir des ministres, il ne suffit pas de réduire le nombre de ministres. Le problème du Tchad, c'est plus profond que ça. Si le chef de l'État a mis 27 ans, pourquoi il va remercier des gens qui ont mis 5 mois? Il faut un changement à la tête de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il est dépassé par les événements, il ne contrôle rien. Et l'arrivée même du docteur, je ne sais plus son nom, Sabo.
Abdoulaye Sabré Fadoul.
Oui, Abdoulaye Sabré Fadoul, oui. Le ministère des Finances commence par inquiéter parce que cet idéologue du régime est à l'origine des 16 mesures qui sont en train de faire souffrir le peuple tchadien. Et je crois que son arrivée au ministère des Finances n'est pas bien vue par la plupart des fonctionnaires tchadiens.
On dit que ce remaniement est dû largement à une question de finances.
Mais nous ne voyons pas bien l'opportunité d'abord d'un remaniement. Aujourd'hui, le vrai problème des Tchadiens est ailleurs. Il ne faut pas essayer donc d'arranger la galerie avec ce réajustement gouvernemental pour dire qu'on est en train de chercher à résoudre le problème.
Il y a quand même ces difficultés de paiement de salaire.
Oui, les salaires sont plus ou moins payés. Mais vous vous imaginez que à l'approche du vote du budget de l'année 2018, voilà qu'on amène un nouveau ministre des Finances, alors qu'on nous annonce qu'on va ramener les salaires à la situation de 2003, donc au salaire indiciaire, on va soutirer toutes les augmentations qui ont eu lieu entre ce temps, depuis 14 ans. On se dit, mais les vrais problèmes ne feront que commencer en 2018. Et voilà que les Tchadiens sont en train de tirer le diable par la queue. Aujourd'hui, on croit trouver une solution miracle par la réduction du nombre de ministres, par la fusion de certains ministères. Mais non, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème n'est pas là. D'abord, il y a une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion, et puis il y a des nominations fantaisistes. Tout cela, ça ne résout vraiment pas le problème du Tchad.
C'était Évariste Ngarlem-Holdé, politologue et enseignant à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, plus de 3 mois après la décision du gouvernement congolais de suspendre pour 6 mois l'importation de bière et de boissons gazeuses en provenance des pays limitrophes, les conséquences se font sentir dans la région. Au sud Kivu, notamment à Uvira, les personnes qui font le trajet Uvira-Bujumbura se disent asphyxiées par cette mesure et dénoncent ce qu'elles appellent la politique de deux poids, deux mesures qui affecte l'application de l'arrêté du ministre du Commerce extérieur et vise à protéger l'industrie locale de la bière. Les détails avec Ernest Muhero.
Ces personnes vivant avec handicap vivent au quotidien du transport en vrac des bières Amstel ou Primus produites au Burundi, que des particuliers profitant des allègements douaniers dont ils sont bénéficiaires au regard de leur vulnérabilité, leur confient pour les faire traverser en RDC au moyen de leur vélo pour handicapés. Claude Missaré, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Uvira, s'étonne que cette mesure frappe plus les petits commerçants. Selon ses sources, des grosses quantités de ces boissons entreraient frauduleusement en RDC via la plante de la Rosizi, ce qui achalande les marchés. marché de Bukavu et Uvira.
Nous, on ne peut pas comprendre. Du moment où l'autorité a interdit l'entrée de ces boissons, quand vous allez dans la cité, c'est dans presque toutes les boîtes de nuit, tous les bistrots où on vend cette boisson. On ne peut pas comprendre qu'on interdit seulement aux handicapés. On laisse des camions et la boisson dans la plaine de la Ruzizi entrer.
Célestin Malumbi Bitangacha, coordonnateur de l'association ADIFA, Action pour le développement intégral des personnes en situation d'handicap, plaide pour l'allègement de la mesure en faveur des handicapés.
Le fait que l'État nous prive cette activité, vraiment, nous ne savons pas comment vivre. Nous sommes tellement pénalisés qui nous cherchent aussi d'autres occupations qui peuvent nous aider quand même à vivre parce que physiquement, nous ne sommes pas aptes à faire n'importe quel genre de travail. Et ici, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de centres sociaux. L'on se pose mille et une questions. Comment est-ce qu'on va quand même supporter nos familles, la scolarité de nos enfants?
Mise au cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services au Congo, Kinshasa, pense que pour booster l'économie locale, il est primordial que même les personnes vivant avec handicap soient mises en contribution dans la protection et promotion de l'industrie locale.
C'est inquiétant que nous puissions avoir des produits en provenance de l'extérieur et qui coûtent moins cher. Ça insécurise l'investissement local. Autrement dit, nous sommes en train de tuer notre propre économie. Nous aussi, en tant que peuple, il y a des choses qu'on ne doit plus favoriser. Il n'y a pas que la bière qu'on peut importer. Il y a beaucoup de choses. Là où nous devons nous interroger, les mesures d'accompagnement. Il y a la fraude qui se développe et encore à grande échelle.
Patient Kassigo, artiste et habitant d'Ouvira, pense que pour une bonne promotion de l'industrie locale, il faut que l'État diminue la taxation vis-à-vis de ces industries. À Ouvira, près de 70 personnes vivant avec handicap vivent des commissions perçues des particuliers. Selon Célestin Malumbi, un seul vélo fait entrer en vrac entre 5 à 10 caisses de bière pour une rémunération variant entre 5 à 10 dollars américains pour la personne vivant avec handicap. Handicap et son pousse-poussère. Selon ses répondants de l'Association des personnes vivant avec handicap, les services de la DGDA Canvivira et la Direction générale des douanes et accises ont saisi entre fin septembre et octobre 2017 une trentaine de vélos des handicapés transportant des boissons Amstel. Les vélos ont été retournés aux handicapés, mais la boisson a été acheminée à l'entrepôt de la DGDA Canvivira. La société civile locale s'interroge tout de même si cette mesure du gouvernement ne viole pas les principes de libre-échange des biens prônés par la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL dont la RDC est membre. D'Ouvira au Sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24 sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Niger, un peu plus de 6 mois après l'attaque du poste de police de Petel-Kolé qui a coûté la vie à 2 policiers en civil, la psychose règne encore au sein de la population de ce village situé sur la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. C'est le constat de notre correspondant au Niger, Abdelrazak Idrissa, qui s'y est rendu récemment.
Les traces au sol du véhicule de la police calcinée restent un des derniers signes visibles qui rappellent l'attaque du 27 mai 2017 sur ce poste de contrôle frontalier. Toutes les activités ont repris, mais beaucoup prennent des précautions, notamment chez les boutiquiers des abords du poste à l'image de Ousseini Oumarou.
J'avais l'habitude de passer la nuit ici, mais depuis l'attaque, je ferme tous les jours à 17h. Le commerce ne marche pas comme avant.
Les habitudes des habitants du village de Petel-Kolé ont aussi beaucoup changé depuis cette attaque dans laquelle 2 policiers et 1 civil ont trouvé la mort.
Nous avons peur. Tout s'arrête ici après la prière du soir.
Dès que la nuit tombe, chacun s'enferme dans sa maison. Même les enfants ne sortent pas pour jouer.
Je suis soudeur ici, mais depuis l'attaque, j'ai transporté toute ma famille à Terra. Je viens seulement la journée pour travailler.
L'attaque du poste de Petel-Kolé a permis à la population du village, même si elle n'était pas directement ciblée, d'être consciente de sa vulnérabilité et donc d'être plus vigilante, selon le chef du groupement Peldu du village, Ama Djibeirou.
Nous avons demandé à toute la population de nous alerter sur tout mouvement suspect, notamment s'il s'agit de motos qui sont interdites de circuler de nuit.
Le village de Petel-Kolé relève d'un des départements de la région de Tillabéri dans lequel le gouvernement nigérien a instauré depuis mars 2017 l'état d'urgence face aux attaques répétées des groupes terroristes qui agissent le long de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abdelrazak Idrissa, de retour de Petel-Kolé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, plusieurs dizaines de mendiants rapatriés de Cotonou pour le Niger et le Nigeria. L'opération conjointement menée par la préfecture et la mairie de Cotonou vise à débarrasser les feux tricolores et les artères de la capitale béninoise de ces personnes sans grands moyens venues chercher de quoi joindre les deux bouts. Retour sur cette opération de rapatriement qui a eu lieu la semaine dernière dans ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La mendicité est un délit pris au sérieux au Bénin. La semaine dernière aura donné le signal fort. Les mendiants ne sont plus autorisés au Bénin. Au moins 128 personnes, dont des femmes et des bébés majoritairement d'origine nigérienne, ont été rapatriées chez eux. Le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, ayant mené l'opération, explique que toutes les dispositions ont été prises pour que la dignité humaine soit respectée.
Le dispositif mis en place permet de faire un relais d'escorte policière à chaque fois qu'ils abordent une ville à Cotonou. Il n'y a jamais eu une opération de ce genre qui puisse se faire sans qu'il n'y ait un peu de mécontentement, même si le fond de l'opération n'est pas discutable. Mais sur la forme, il peut y avoir des grincements dedans, ce qui est normal. Mais les autorités ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'une stigmatisation, il ne s'agit pas d'une discrimination, il s'agit simplement d'assainir nos villes.
Dénommée opération Zéro Mendiant à Cotonou, le rapatriement s'est fait après que des soins médicaux aient été donnés à ces mendiants. La directrice des affaires sociales des départements de l'Atlantique et du Littoral a personnellement supervisé l'opération.
Nous nous sommes préoccupés de l'état de santé des enfants. Il y en avait qui avaient des plaies, qui suppuraient. Il y en avait qui faisaient de la fièvre. Nous avons amené sur place un agent de santé, une infirmière notamment, qui les a pris en charge rapidement. En réalité, les gens doivent comprendre que si vous voulez rester dans un pays étranger, vous avez à rester dans le pays de façon normale.
Certains Béninois avaient peur que l'opération n'entraîne un incident diplomatique, mais il faut dire que tout s'est passé conjointement avec l'ambassade des pays concernés. D'ailleurs, sur le site du rapatriement, nous avons rencontré le chargé de mission de la représentation diplomatique du Niger au Bénin, venu s'assurer du bon déroulement de l'opération, comme il en témoigne ici.
Tout s'est bien passé, c'est le fruit de la bonne coopération entre le Niger et le Bénin.
La majorité des mendiants rapatriés ont été pris devant les mosquées. Le chef service accident et constat au niveau de la police nationale précise que cela s'explique par le fait que les accidents les plus mortels impliquant les mendiants ont eu lieu devant des mosquées.
Lorsqu'ils sont en situation de mendicité, ils ne surveillent plus rien et ils empiètent sur la circulation normale et créent des accidents de route. Les trois cas de décès liés aux accidents dans lesquels sont impliqués les mendiants en tant que victimes, ces trois cas-là se sont produits non loin de la mosquée de Zongo.
Inscrit Cotonou au même niveau de standing que les grandes capitales africaines, c'est le but de cette opération qui veille désormais à ce qu'aucun mendiant ne s'installe dans les feux tricolores, offrant ainsi une carte postale pas très reluisante de Cotonou. Il faut dire qu'avant d'être rapatrié, le gouvernement a offert une source de reconversion professionnelle aux mendiants qui l'ont délaissé. De Cotonou, je n'ai plus à demander pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'autodépistage du VIH-SIDA.
L'autotest permet d'effectuer un dépistage par soi-même en prélevant son sang ou sa salive. C'est une méthode plus confidentielle et rapide.
Pour en parler, nous recevons le docteur Hugues Lago, coordonnateur des programmes VIH, tuberculose et hépatite pour le Bureau Afrique subsaharienne de l'OMS. Il nous expliquera les avantages et les limites de ce type de dépistage.
Nous écouterons également le docteur Joseph Larmarange de l'Institut français de recherche pour le développement et le docteur Vincent Bretin d'UNITAID. Ils nous parleront des projets d'autodépistage en cours en Afrique.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Daryl Smith, merci à Anne Albutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.